Bienvenue au balado Femmes en vie. Je suis Alexandra Vincent, étudiante au doctorat en service social à l'Université d'Ottawa. Cet épisode spécial porte sur le rapport du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes de violences conjugales et sexuelles un an plus tard. C'est l'enregistrement d'un événement récent du collectif Femmes en vie, animé par Isabelle, Simon et moi, dans lequel vous entendrez 6 représentantes de milieux de pratique sur les retombées du rapport et de ses recommandations sur le terrain. Bonne écoute!
Donc, la façon dont on va commencer ce matin, ce midi, on va introduire les panélistes. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. On a plusieurs questions pour vous aujourd'hui quand même, puis il va y avoir des questions du public, fait qu'on va vous demander de garder vos réponses assez succincte pour qu'on ait la chance de répondre à plusieurs questions. Fait que ce qu'on va faire ce matin, ce qu'on va vous proposer, c'est débuter avec un premier tour de table, puis je vais présenter les panélistes au fur et à mesure. Et la première question qu'on va lancer à nos panélistes aujourd'hui, c'est la suivante. Ça a été quoi les impacts du rapport dans vos milieux respectifs d'intervention? Donc, concrètement, là, dans la dernière année, qu'est-ce que vous avez remarqué sur le terrain? Qu'est-ce qui a été particulièrement flagrant en lien avec les recommandations du rapport? On va débuter avec Louise Riendeau du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales.
Bonjour. Ben écoutez, qu'est-ce qui a été le plus flagrant? C'est encore difficile à dire. Une année, c'est pas très long. Le rapport est sorti en décembre l'année dernière. Il y a eu beaucoup d'annonces de fait par le gouvernement au printemps. C'est peut-être ça, en fait, qui a été le plus flagrant, la volonté de donner suite au rapport en faisant plusieurs annonces. Mais le temps que tout ça se mette en branle, ça prend quand même du temps. T'sais, on pourra parler d'éléments spécifiques tantôt, mais il y a eu des choses de fait au niveau de la police, au niveau des procureurs. Mais je ne pense pas qu'on est capable à ce jour, à ce niveau-là, de dire qu'il y a une grande différence dans les pratiques. Mais la plus grande différence, c'est probablement la volonté du gouvernement, effectivement, de mettre les choses en œuvre.
Merci, Louise. On aura certainement la chance de développer un peu plus tantôt. On va poursuivre avec Sabrina Nadeau, d'À cœur d'homme.
Donc, oui, nous, ce qu'on a remarqué, franchement, c'est un peu la même chose que ce que Louise disait, c'est vraiment un désir de décloisonnement, une mobilisation des troupes sur le terrain, puis une espèce de désir de voir où est-ce qu'on pouvait améliorer justement les liens avec les partenaires, où on pouvait ouvrir des portes pour créer des liens, puis vraiment cultiver les alliances qu'on pouvait développer autour avec nos partenaires pour assurer une meilleure sécurité des victimes, un meilleur encadrement des agresseurs. Donc, nous, sur le terrain, c'est ça qu'on le sent. On le sent la volonté, mais c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Il y avait plein de pistes vraiment intéressantes là, dans le rapport. Puis, heureusement, on ne sent pas que ça veut être tabletté. Ça aussi, c'est une autre bonne nouvelle. On sent qu'il y a comme une espèce de... Je pense que personne ne veut que ces recommandations-là restent sur les tablettes. Donc, c'est ça. Je crois que... C'est vraiment positif, mais il va falloir y mettre le temps, puis ça va être beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça mobilise énormément de ressources là, à l'interne, entre autres à l'association. Nous, les chantiers sont ouverts, les ministères nous sollicitent. Tout le monde veut travailler, veut créer des liens, les cellules de crise, tout ça. T'sais, on sent qu'ils veulent tout consolider. Mais c'est ça, c'est très exigeant pour tout le monde, puis je pense qu'il va falloir mettre les efforts nécessaires pour que ça se concrétise le plus rapidement possible.
Mm-hmm. Merci, Sabrina. On va maintenant passer à Sophie Gagnon de Juripop.
Bonjour, merci. Mon premier instinct, ce serait de répondre comme Louise, à savoir vraiment de la volonté politique. Là. Bien franchement, je trouve ça impressionnant que... 4 ans après le mouvement, moi aussi, on a encore une conférence comme celle-ci, qu'on ait près de 100 personnes qui soient présentes et que le gouvernement continue de faire des annonces. C'est, selon moi, le principal leg du rapport, c'est vraiment de créer une imputabilité pour le politique. Ensuite, dans notre pratique au quotidien, bon, ben moi, je suis, corrigez-moi si je me trompe, mais la seule avocate parmi nous. Alors, je prendrai ce chapeau-là dans mes interventions. Puis c'est clair que le changement, je pense, le plus concret qu'on a eu à ce jour, c'est l'adoption du projet de loi qui vise la mise en œuvre d'un tribunal spécialisé. C'était une recommandation forte du rapport d'arriver à faire bouger le système de justice, qui est un immense bateau. C'est pas évident. Alors, évidemment, ce n'est qu'un projet de loi, ce n'est qu'un bout de papier pour l'instant, mais selon moi, ce serait un leg quand même important. Puis sinon, dans notre pratique au quotidien chez Juripop, dans les luttes en matière de violence sexuelle, violence conjugale, puis surtout en violence sexuelle, les avocats, les avocates, on est les derniers arrivés. Là. C'est les services de première ligne qui existent au Québec depuis plus longtemps, puis à bon droit. Puis c'est sûr qu'au début de notre arrivée, on voyait, puis on continue de voir de la résistance à la présence de juristes, des fois dans des dossiers, la collaboration intersectorielle n'est pas toujours évidente. Puis je pense que avec le temps, on constate de plus en plus les bienfaits d'avoir un accompagnement juridique pour les personnes victimes et les survivantes. Puis ça, à mon avis, c'est un impact bénéfique, entre autres, là, de la publication du rapport.
Merci, Sophie. Puis tu as mentionné la question du tribunal spécialisé, puis on va y revenir tantôt, là, parce que je suis certaine qu'il y a plusieurs participants et participantes. On est rendu à 95, d'ailleurs, qui vont vouloir en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Même question pour Manon Monastès de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes.
Oui, bien, j'abonde dans le même sens. Je trouve que la force du rapport de rebâtir la confiance, c'est que ça a été vraiment une analyse systémique et une analyse globale de toutes les problématiques que les victimes rencontrent. Alors ça, c'est vraiment la force du rapport et ça fait en sorte que quand même avec 190 recommandations, alors on s'entend qu'il reste beaucoup d'opérationnalisation à faire, mais quand même, ça fait en sorte qu'on n'a pas ciblé un élément de façon en silo, un élément amélioré, mais qu'on demande vraiment une analyse, non seulement une analyse, mais vraiment des changements systémiques et des changements en profondeur dans plusieurs secteurs à la fois. Alors, et le fait et la force du rapport aussi, ça fait en sorte que le focus soit vraiment sur l'opérationnalisation, l'actualisation des mesures de ce rapport et que c'est difficile à ce moment-là de tabletter un rapport comme ça. Alors, oui, de façon générale, les maisons d'hébergement ont été extrêmement sollicitées depuis un an, mais beaucoup reste à faire. Alors, on va pouvoir élaborer un peu plus là-dessus plus tard.
Merci. Merci, Manon. On va maintenant passer à Sabrina Lemeltier de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape.
Oui, bonjour. Bien, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais je pense quand même, je veux souligner que le tribunal spécialisé est là. On a une loi. Maintenant, il y a beaucoup de travail encore à faire, notamment au niveau des services intégrés, parce que rebâtir la confiance avait cette recommandation, mais aussi avait la recommandation d'accompagner les victimes du début à la fin et que ça ne se limite pas au juridique. Je dirais quand même qu'on voit déjà des retombées positives sur le terrain. Je soulignerais les 4 heures de consultation gratuite pour toutes les femmes. Je peux vous assurer que ça fait une grande différence au niveau des maisons d'hébergement. L'autre résultat aussi très concret pour les maisons d'hébergement de deuxième étape, c'est que ça a amené vraiment une conscientisation de l'importance du continuum de services. Donc, ce qui nous prenait, je dirais, 8 à 10 ans, des fois, de sortir une maison d'hébergement de deuxième étape, on va être capable de les sortir en moins de 2 ans. Donc, il y a vraiment une transformation au niveau gouvernemental pour se dire qu'il faut absolument que l'action soit plus rapide et qu'on ait des résultats concrets pour accompagner les victimes.
Merci, Sabrina. Et finalement, Roxane Ocampo du Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel.
Oui, merci. Bonjour à toutes. Je pourrais répéter tout ce qui a été dit, mais je ne le ferai pas. Quand on fait le bilan de la dernière année, pour nous, c'est sûr qu'il faut aussi tenir compte de la pandémie et des vagues de dévoilement. C'est difficile parfois de départager les relations de cause à effet, mais concrètement, du côté des CALAX, quelque chose de marquant, ça a été le rehaussement de notre financement dans les mêmes eaux que le dépôt du rapport. Cela étant dit, je ne vous apprendrai rien en disant que c'est malheureusement toujours pas à la hauteur des attentes. Ni des besoins, les listes en témoignent. Le rapport Rebâtir la confiance le soulignait bien d'ailleurs, les travailleurs sont au bout du rouleau, l'offre est parfois inégale. Il y a des communautés, par exemple, en régions plus éloignées qui ne sont pas desservies adéquatement. Alors, pour nous, il faut encore un financement à la hauteur des besoins qui soit durable, mais aussi équitable entre les organismes.
Merci. Merci, Roxane, et merci, mesdames, pour ce premier tour de table. Donc, je vais maintenant m'adresser à celles qui travaillent auprès des victimes. Dans le rapport, on a une première série de recommandations qui concernent tout l'accompagnement psychosocial et judiciaire des victimes. Est-ce que votre façon d'accompagner les victimes a changé depuis la publication du rapport? Donc là, vous pouvez y aller dans l'ordre qui vous convient, celles qui souhaitent répondre.
Je peux peut-être y aller. Je dirais pas que la façon d'accompagner les victimes a changé depuis le rapport, mais tantôt, Roxane disait il y a aussi la pandémie et tout ça. Et effectivement, si on regarde en matière de violence conjugale, ce qu'on observe depuis la pandémie, c'est une augmentation des demandes d'aide sans hébergement. Il y a beaucoup de femmes qui effectivement font ces demandes d'aide-là. Je pense que c'est pas étranger aux différentes campagnes. Au début de la pandémie, on s'est ramassé pendant 2-3 mois avec des maisons vides parce que les femmes pouvaient pas appeler à l'aide. Les conjoints étaient toujours là parce que avec les mesures sanitaires, ça décourageait les femmes. Et donc, à la fois le gouvernement, mais à la fois toutes les organisations se sont mis à faire toutes sortes de campagnes pour dire aux femmes, nous sommes là, nous pouvons vous aider, etc. Et on voit les effets concrets de ça. Sabrina parlait d'intégration des services. On n'est pas encore rendu là. Il faudra voir effectivement comment on pourra y arriver, effectivement, comment on pourra travailler vraiment dans un meilleur continuum à travers les différentes organisations pour s'assurer que l'ensemble des besoins des femmes trouvent réponse. Mais je dirais qu'à ce moment-ci, ce qui est le plus frappant, le plus marquant, en tout cas au niveau des services, des maisons d'aide et d'hébergement, c'est peut-être cette hausse de demande de services-là à ce niveau-là.
Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué des choses similaires à Louise ou qui voudraient rajouter d'autres éléments par rapport à l'accompagnement? Je vois Manon.
Bien, effectivement, il y a eu une recrudescence au niveau des demandes en services externes, mais aussi dans la façon dont les femmes ont pris contact avec nos services. On a développé beaucoup l'aspect via les médias sociaux, ce qu'on faisait pas parce que justement, elles étaient confinées avec leur agresseur. Donc, elles ont communiqué beaucoup plus par les réseaux sociaux, Facebook, par courriel. Parce que justement, du fait de leur confinement 24 heures sur 24 avec leur agresseur, donc ça a quand même changé notre façon d'intervenir avec les femmes. Ça aussi, mais c'est aussi à géométrie variable parce qu'il y a des maisons qui sont toujours restées à presque pleine capacité, d'autres moins. Alors, ça a été aussi à géométrie variable. On a eu aussi plus les femmes qui pouvaient sortir parce qu'elles continuaient à travailler à l'extérieur aussi. On a eu de meilleurs contacts avec elle, mais il a fallu adapter complètement notre façon d'entrer en contact avec les femmes pour répondre à leurs besoins, effectivement. Donc, et puis bien sûr que c'était un défi en termes de pouvoir leur offrir les services auxquels elles avaient droit. Mais ça a été vraiment géométrie variable de maison à maison, de région à région. Et la pandémie ne fait, ça c'est important, la pandémie ne fait qu'exacerber les problématiques qu'on avait déjà au niveau de notre capacité à offrir des services, au niveau de notre capacité à intervenir en termes d'accueil aussi. Ça a posé des défis importants au niveau de respecter les mesures sanitaires. Donc, quelquefois, ça voulait dire n'avoir, même si dans une chambre, on avait plusieurs lits, ben ça voulait dire quelquefois restreindre l'accès. Alors, ça aussi, c'est quelque chose auquel on a dû faire face.
Mm-hmm. Je vois que Roxane veut réagir. Puis ensuite, Sabrina.
Oui, bien, je dirais dans le même sens par rapport à la pression supplémentaire sur les ressources. Le confinement a créé une augmentation de la demande. Certaines femmes ont été confinées avec leur agresseur, oui, et pour d'autres, c'est comme le sentiment de perte de contrôle sur leur vie qui a peut-être exacerbé une détresse psychologique qui persistait. Mais pour revenir au rapport en ce qui a trait à l'accompagnement, on réalise peut-être une absence de changement en ce qui a trait à la reconnaissance de notre expertise au moment où on parle enfin d'accompagnement psychosocial en continu. Ce serait bien être cohérent à cet égard-là parce que, par exemple, dans les CALAX, on offre un service d'accompagnement judiciaire et pas plus tard que le mois dernier, une intervenante qui nous rapporte qu'elle s'est fait refuser l'accès au bureau d'un procureur. Alors, notre expertise pourrait être mobilisée davantage, mais malheureusement, il y a un manque de reconnaissance à ce niveau-là.
Mm-hmm. Juste pour le savoir, on a monté à 100 participantes et participants. Donc, Sabrina, puis ensuite Sophie.
Je pense qu'on a eu un concours de circonstances. Vraiment, le rapport a été déposé à la mi-décembre et on est rentré ensuite en pandémie. On a connu la vague de féminicides et c'est triste ce que je vais dire là, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu ces féminicides que le rapport a été pris autant au sérieux. Ben, c'est un rapport ambitieux, on l'a dit, avec 190 recommandations qui brasse très, très large et qui amène toutes les incohérences de l'accompagnement des victimes. Donc, un an, c'est court, là, tout à fait, c'est court, mais faire changer la prise en charge d'une manière aussi importante et amener chaque acteur à regarder comment il intervenait auprès des victimes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales, ça va prendre un peu plus de temps, c'est certain. Par contre, la mobilisation qui s'est faite, l'engagement, on a eu un premier ministre, une ministre Guilbeault aussi, qui a dit qu'elle allait mettre en place les 190 recommandations, nous permet à nous, je dirais, acteurs ou engagés en violence conjugale, de toujours ramener le gouvernement à ses engagements. Puis je rejoins Roxane, malheureusement, on fait encore face à des freins, parce que changer les façons de faire, c'est très difficile. Par contre, moi, maintenant, là, mon équipe, tout le monde, on prend la brique des 190 recommandations et on l'amène de l'avant, puis on montre, on fait aussi de la formation. Il y a encore des gens là qui sont actifs et qui accompagnent les victimes qui n'ont rien lu sur le rapport Bâtir la confiance. Donc, c'est aussi de continuer. Je sais qu'aussi les deux coprésidentes là, font des interventions, donnent des conférences. Il faut le faire vivre, ce rapport, pour amener tout le monde à bouger. Puis après, le rôle des regroupements, c'est de forcer, le gouvernement à nous inclure dans ce qui va être mis en place pour ne pas reproduire les erreurs du passé.
Mm-hmm. Sophie?
Je me permets de faire du millage sur l'intervention de Roxane concernant la reconnaissance de l'expertise, parce que nous aussi, c'est un obstacle qu'on rencontre dans nos dossiers. C'est la collaboration des partenaires est à géométrie variable. Par exemple, en matière de violence conjugale, nous, notre expertise, c'est d'offrir de la représentation en droit de la famille. Puis historiquement, le droit de la famille a été exclu là, des filets de sécurité, des initiatives de concertation en matière de violence conjugale. Ça arrive trop souvent qu'on prend le téléphone, qu'on appelle un procureur de la couronne pour obtenir, par exemple, copie des conditions, puis que l'information nous est refusée. Alors, notre avocate, plutôt que de passer du temps à accompagner puis à représenter la personne victime, bien, il se trouve à devoir faire de la pédagogie ou encore de l'argumentation avec un procureur de la couronne, puis c'est du temps qui est perdu. Donc, je pense que les prochaines années, on va devoir voir la culture de collaboration qui, qui descend là, dans le bas des organisations puis qui va jusqu'aux intervenants. Puis ça, c'est un, on perd malheureusement trop de temps à ce niveau-là. Puis au niveau du juridique, le rapport, selon moi, a créé des attentes de la part de la population, de la part des personnes victimes et des survivantes quant à ce que le système peut faire pour améliorer l'expérience des personnes dans le système de justice. Je pense que c'est un progrès que ces attentes-là aient été nommées et qu'elles aient été élevées. Mais le risque, c'est que si les attentes sont déçues et que le système ne livre pas, ben des vagues de mots aussi, des vagues de dénonciations sur les réseaux sociaux, on va en avoir d'autres dans 5, dans 10, dans 15 ans. Donc, je pense que c'est vraiment le rapport, ce n'est que le début et que vraiment le travail va devoir être fait parce que sinon, la perte de confiance, selon moi, va être plus grande qu'elle ne l'a été dans le passé. Mm-hmm.
Merci Sophie. En fait, toujours en ce qui a trait à l'accompagnement des victimes, on aurait peut-être une autre question par rapport à ça, si une ou deux personnes voudraient se lancer, mais une des choses qui a été nommée dans le rapport, dans le fond, c'est de cibler des changements de pratique avec des groupes qui sont sous-représentés. On nomme dans le rapport, par exemple, au niveau des Autochtones, communautés LGBTQ, hommes agressés, personnes sans statut, femmes immigrantes en milieu rural, les femmes qui ont des limitations fonctionnelles, les femmes aînées, donc de comment plus rejoindre ces personnes-là, par exemple. Est-ce que vous remarquez des changements de pratique à ce niveau-là, ou est-ce que vous remarquez qu'il y a des choses qui ont été faites pour aller rejoindre certaines populations? Je ne sais pas s'il y a une ou deux personnes qui voudraient peut-être réagir s'il y a des constats par rapport à ça. Oui, Louise?
Il semble y avoir des actions faites pour mieux rejoindre les populations autochtones et c'est peut-être pas surprenant parce qu'il y avait des choses de commencer. Il y avait déjà des plans spécifiques en matière d'agression sexuelle, en matière de violence conjugale. Pour ce qui est des autres populations plus marginalisées, moi je suis membre de la coalition féministe contre la violence à l'égard des femmes et les groupes qui travaillent avec les femmes ayant des limitations fonctionnelles avec les femmes immigrantes n'ont pas du tout l'impression d'être prises en compte, d'être invitées à la table quand il y a des consultations, quand on parle des mesures. Fait que je pense qu'il y a vraiment des efforts à faire à ce niveau-là. Dernièrement, le ministère de la Santé et des Services sociaux regardait les mesures pour les femmes âgées ou des mesures pour des personnes qui ont limitations fonctionnelles, mais on était plus dans la mise en œuvre du plan d'action en matière de violence conjugale que dans la mise en œuvre du rapport Rebâtir la confiance. Fait que je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là et à tous les niveaux. Tu sais, on en parlait ce matin, si on parle des femmes ayant des limitations fonctionnelles, dans nos propres ressources, c'est des femmes qu'on ne voit pas. Donc, c'est des femmes qui ne font pas de pression pour changer. Je ne dis pas qu'elles ne font pas de pression, mais leur absence fait aussi qu'on peut moins changer les pratiques, je dirais. Et donc, il faut avoir un souci particulier si on veut vraiment réussir à répondre aux besoins de toutes les femmes qui sont victimes.
Mm-hmm. Je vois que Manon, tu voulais réagir aussi par rapport à ça.
Oui, parce que je pense que ce qui manque encore beaucoup au niveau gouvernemental, c'est d'avoir vraiment une analyse intersectionnelle intégrée. Quand on parle de femmes victimes, encore, il y a comme une perception en silo. Ça veut dire on intervient avec des femmes immigrantes, avec des femmes qui ont des limitations, avec des femmes autochtones et ainsi de suite. Mais ça peut souvent être la même femme, là. Alors, puis qui a été victime de violences conjugales, familiales, d'exploitation sexuelle. Alors, toute cette intégration des différentes facettes des oppressions vécues par les femmes, tout ça, ça reste à faire. Donc, tant que ça, c'est pas fait, on verra pas de changement significatif au niveau des pratiques, là, à tous les niveaux. Donc, Puis effectivement, on en parle très peu. Puis comme disait Louise, qu'est-ce qui est en marche? Ce sont déjà des choses où il y avait déjà des débuts. Là. Il y a beaucoup de travaux qu'on fait avec le MIFI, mais ça, c'était déjà prévu, des formations. Là, on est en train de former des interprètes. Mais je veux dire, c'était déjà dans les cartons. Là. Mais vraiment, quand on parle avec le rapport « Rebâtir la confiance », où est-ce qu'on vise vraiment des changements de culture organisationnelle, alors vraiment des changements en profondeur, pas juste au niveau des processus ou un changement esthétique, bien, c'est évident que ça va prendre du temps puis qu'il y a beaucoup d'éléments à intégrer, dont toute la question de comment mieux répondre, que ce soit à tous les niveaux, tous les systèmes, comment mieux répondre aux femmes qui sont dans des situations particulières. Mm-hmm. Puis effectivement, elles sont encore invisibilisées de façon assez marquante. Là. Mm-hmm.
Merci Manon. Sophie?
On parlait tout à l'heure qu'une des forces du rapport Rebâtir la confiance, c'est de mettre de la pression sur nos élus pour offrir des services. Moi, ma crainte, c'est qu'un effet pervers de ça, ce soit une tentation pour l'État de centraliser les services qui sont offerts à la population, voire de les offrir par le biais de l'appareil administratif. Puis en matière de conseil juridique, c'est ce qui a été fait. C'est certain que nous, on a des partenaires avec qui on travaille qui représentent des communautés vulnérabilisées, qui sont surreprésentées parmi les victimes de violences à caractère sexuel, qui ont été... qui nous ont nommé là, que des services qui sont offerts directement par l'État ne seront pas sollicités par les communautés qui ne font plus confiance à l'État. Je pense aux travailleurs du sexe, je pense aux personnes ayant un statut migratoire précaire, les personnes incarcérées. Donc ça, c'est définitivement une préoccupation qu'on a, là, que l'angle mort de la volonté politique et de la centralisation soit les personnes qui déjà se trouvent exclues de ces services-là. Et puis, bon, de notre côté, chez Juripop, on s'est vu confier le mandat d'offrir, de créer de représenter gratuitement des personnes victimes et des survivantes pour documenter les obstacles d'accès à la justice puis développer des pratiques innovantes. On travaille, en ce moment, l'équipe travaille sur les critères d'admissibilité de notre programme en violence conjugale, donc de déterminer qui seront les personnes. C'est limité, là, on parle de 25 à 75 femmes par année qui auront accès à nos services de représentation gratuite en droit de la famille. Puis pour la première année, on a souhaité se concentrer sur les personnes avec un statut migratoire précaire ou en situation de parrainage, parce qu'évidemment, en matière de violence conjugale, c'est vraiment un facteur de vulnérabilité additionnelle. Donc, de notre côté, on va se concentrer là-dessus. Puis comme Manon l'indiquait, ça peut aussi nous permettre de prendre en compte d'autres types de vulnérabilité, mais c'est là-dessus qu'on va se concentrer pour Juripop pour la prochaine année en matière de violence conjugale.
Intéressant. Des fois, il faut cibler aussi. On ne peut pas tout prendre. Fait qu'on entend qu'il y a des recommandations intéressantes dans ce rapport-là, mais il va falloir les opérationnaliser. Puis le comment les opérationnaliser, bien, ça reste à suivre. Simon, je te passe la parole pour les prochaines questions.
Peut-être donner la parole à Alexandra, je pense, avec peut-être des commentaires ou des questions du public avant qu'on passe à la prochaine question.
Oui, j'aurais peut-être trois petits points. En lien aux personnes les plus vulnérables dans le système judiciaire, il y a une personne qui avait une question sur est-ce qu'on a des statistiques ou est-ce qu'on connaît l'ampleur par rapport aux femmes plus âgées qui vivent de la violence conjugale et qui recourent au système judiciaire. Donc, je ne sais pas si ça fait écho à certaines panélistes. Je vais lancer les trois, puis vous réagissez si vous avez des trucs à dire. Un commentaire, une personne qui souligne que le financement pour les organismes pour hommes abusés sexuellement a été rehaussé dans la foulée du rapport, ce qui a permis d'embaucher des ressources additionnelles et réduire les listes d'attente. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et une question que je suis certaine qui pourra solliciter l'intérêt de tout le monde. Donc, vous verrez si c'est pertinent aussi de renchérir au courant des autres questions. Mais quelqu'un qui demande si Sabrina Lemeltier, tu mentionnais que les féminicides ont eu l'effet de vraiment qu'on prenne au sérieux les recommandations du rapport. Quelqu'un demande s'il y a eu un effet similaire dans l'approche des services de protection de la jeunesse depuis la publication du rapport. Est-ce que leur approche a changé et est-ce qu'il y a eu des changements à l'égard des victimes de violences conjugales, particulièrement les victimes qui se font menacer, sont menacées d'être accusées ou sont carrément accusées d'être aliénantes.
Merci, Alexandra. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir à une ou à différentes des questions qui viennent de vous être présentées.
Je peux répondre sur la dernière question. C'est oui. Certain que c'est un des gros nœuds en termes d'intervention et d'accompagnement de nos mamans. Là. Je pense qu'il y a deux rapports qui doivent se rencontrer, rebâtir la confiance et celui de la commission Laurence qui ne s'est pas encore fait. Et c'est certain que la formation au niveau des intervenants en protection de la jeunesse, l'arrêt de l'utilisation de l'aliénation parentale, la non-reconnaissance de la violence conjugale que vivent les femmes, les raccourcis qui sont faits, j'ai des exemples, là je pourrais en parler des heures, c'est un des gros nœuds dans l'accompagnement des victimes. Donc je vois que ça, c'est de continuer de dire qu'on doit faire rencontrer ces rapports-là pour qu'il y ait une cohérence dans l'accompagnement des femmes et des enfants, parce que clairement là, ça n'a pas trop avancé.
Merci Sabrina. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait réagir avant qu'on passe à la prochaine question? Oui, Manon.
Oui. Ben, effectivement, de façon générale, c'est que, ne serait-ce qu'en termes là, de l'intervention de la protection de la jeunesse, c'est pas nouveau. Là. Ça fait, oui, il y a eu la commission Laurent, mais il y a des interventions qui ont été faites quand il y a eu la refonte de la loi de la protection de la jeunesse. Alors, ça fait quand même très longtemps qu'on intervient justement sur plusieurs sujets, dont la question de la prise en compte de l'aliénation parentale ou des conflits sévères de séparation qui occultent complètement les enjeux et les impacts en matière de violence conjugale ou familiale. Alors, effectivement, comme le disait Sabrina, il y a tout un défi au niveau de l'intégration ou la communication en différents rapports. Je regardais seulement l'année passée, on a soumis 3-4 rapports sur l'intervention policière, la protection de la jeunesse au niveau du comité de travail. Là, il y a la loi pour l'implantation des tribunaux spécialisés. Alors, il y a plusieurs documents, il y a eu beaucoup de consultations, puis il faut essayer de faire un tout avec ça, puis que les rapports aussi se parlent. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été répétées aussi. Alors là, il faut passer à l'action, puis il faut vraiment qu'on prenne en compte tout ce qui a été dit, là, qu'on ne recommence pas à chaque fois. Là, parce que même dans Rebâtir la confiance, ça a repris aussi des éléments qui avaient déjà été dits. La force du rapport, c'est que ça a vraiment intégré de nombreux rapports, de nombreuses... Ça a mis tout dans le même rapport, ce qui a déjà été dit. Donc, maintenant, il faut qu'on puisse opérationnaliser puis actualiser tous ces éléments-là.
Merci, Manon. Donc, si on veut une cohérence dans l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, les changements ne peuvent pas se limiter là, au droit criminel, mais il faut vraiment aussi penser... protection de la jeunesse et droits de la famille. Louise?
Pour ce qui est de la question des femmes âgées dans le système de justice, je n'ai pas de chiffres, mais je soupçonne que les taux soient assez bas. On est plusieurs groupes qui travaillons avec un groupe de chercheuses sur la question de l'expérience des femmes dans le système judiciaire, et un volet de la recherche porte justement sur l'expérience de femmes marginalisées. Et on a voulu rencontrer des intervenantes qui les accompagnaient, et outre les femmes immigrantes, quelques femmes autochtones ou parfois là, au niveau de la diversité sexuelle, ça a été très difficile de trouver des intervenantes qui accompagnaient ces femmes-là. Fait, ou bien il n'y a pas de groupe qui font l'accompagnement, ou bien les victimes n'utilisent pas ce système-là, ce qui est, je pense, l'hypothèse probablement, en tout cas, les deux hypothèses sont plausibles. Fait que c'est difficile d'en dire plus, mais vraiment, moi, je soupçonne que les femmes âgées sont assez peu représentées et utilisent assez peu le système judiciaire.
Merci, Louise, pour la précision. Alors, je vous propose de passer à la prochaine question. En fait, évidemment, ce serait difficile de parler d'agression sexuelle et de violence conjugale sans parler spécifiquement des réalités autochtones. Le rapport Rebâtir la confiance, d'ailleurs, consacrait un de ses chapitres aux réalités autochtones. Je veux mentionner qu'on a lancé l'invitation aussi à une représentante de femmes autochtones du Québec de se joindre à nous aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Dans le rapport, l'approche privilégiée par le comité d'experts a été vraiment de respecter l'autodétermination des communautés autochtones dans la structuration et l'offre de services pour l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Mais il y a quand même un appel qui est, j'irais, lancé à l'ensemble des organisations qui interviennent auprès des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales en termes de formation pour que les services soient plus sensibilisés à la réalité des femmes autochtones dans divers milieux. Est-ce que vous avez constaté des changements, ou est-ce qu'il y a une amorce de changements pour assurer une formation et des services plus sensibles aux réalités des femmes autochtones ou des communautés autochtones dans divers milieux? Sabrina.
Il y a eu un appel à projet du secrétariat de la condition féminine qui nous incitait justement à déposer des projets. Puis dans ce cadre-là, nous, on a eu des contacts avec des représentants d'organismes qui travaillent avec les agresseurs, mais dans le nord du Québec, donc au Nunavut, en tout cas. Puis, on a vraiment regardé la possibilité d'avoir des échanges au niveau de l'évaluation. On est parti vraiment de notre outil d'évaluation du risque homicide en leur disant bien, peut-être que c'était parce qu'on l'avait déjà adapté pour les communautés autochtones. Donc, on leur a juste offert, on a dit, est-ce que vous seriez intéressé à ce qu'on traduise cet outil-là, à ce qu'on donne de la formation à vos intervenants pour que vous deveniez autonome par la suite. Donc, donner de la formation pour former des formateurs pour que cette utilisation-là d'un outil de dépistage puis d'évaluation du risque soit popularisée là, dans leur, puis adaptée à leur réalité. Et on a reçu un accueil vraiment très enthousiaste et effectivement, on a déposé un projet pour arriver à faire ça. Puis aussi, nous, dans la façon dont on l'a présenté, c'est oui, on veut vous faire bénéficier de notre expertise, mais on aimerait aussi que vous nous parliez de ce que vous mettez en place qui fonctionne dans vos communautés, entre autres au niveau des mesures de protection qui peuvent mettre là, par rapport à la façon dont ils travaillent avec les hommes. C'est vraiment différent, c'est très, des fois c'est un peu confrontant, mais c'est important de voir là, qu'est-ce qui se fait. Donc, c'est vraiment dans un esprit d'échange là, qu'on a présenté ce projet-là. Fait qu'on est plus dans ce minding-là là, au niveau des collaborations avec les communautés. Puis dans nos organisations, il y a plusieurs secteurs, entre autres en Abitibi, entre autres en Gaspésie, tout ça, il y a plusieurs secteurs où on dessert déjà des populations autochtones, soit qui viennent dans nos services parce qu'ils habitent hors réserve ou même quand ils sont dans les réserves. Donc, c'est vraiment de voir comment on peut mieux desservir là, ces populations-là puis avoir accès, qu'ils aient accès à des services.
Merci Sabrina. Donc, un partenariat intéressant qui se dessine au niveau des services pour les conjoints violents. D'autres commentaires ou observations? Oui, Roxane.
Oui, bien, du côté des CALAX, il y a une volonté de fournir des services culturellement sécurisants, de lancer des projets aussi pour se rendre directement dans les communautés qui sont parfois à plusieurs heures de route du centre le plus proche. Mais les problèmes de financement et de recrutement se posent là aussi, en fait. On ne sait pas exactement si le gouvernement priorise des projets par et pour les Autochtones, ce qui est tout à fait souhaitable, on s'entend que c'est l'idéal, mais les CALAX ont de la difficulté à, par exemple, sur la Côte-Nord, il y a un projet d'équipe volante qui se déplacerait sur le territoire, qui reste sur la glace depuis très longtemps. En Abitibi, il y a le CALAX Étoile du Nord qui juge que les femmes autochtones sont les mieux placées pour intervenir auprès d'autres membres des Premières Nations. Puis, il y a une intervenante qui avait une approche holistique, anticolonialiste. Moi, dans la nouvelle, le recrutement était très difficile là aussi. Donc, tous ces problèmes de financement et de main-d'œuvre impactent malheureusement cet aspect-là aussi de nos services.
Merci beaucoup, Roxane. Alors, si vous êtes d'accord, on pourrait passer au... Ah, il y avait Manon avant qu'on passe au prochain bloc de questions. Oui, Manon.
Il y a quelques années, on a eu quand même un projet conjoint avec FAC qui s'appelait Ishkoteo. Alors, c'était vraiment la volonté de faire le pont entre les ressources d'hébergement autochtones et allochtones et puis d'avoir une meilleure collaboration. Donc, effectivement, il y a des maisons, que ce soit à Chibougamau, à Maniwaki, qui travaillent en étroite collaboration là, avec les communautés et les maisons d'hébergement qui sont très proches, comme à Maniwaki. Mais effectivement, il y a toute la question des ressources, même ce que nos collègues des maisons d'hébergement autochtones nous disent, c'est tout, et auxquelles nous aussi on est confrontés, c'est toute la question du développement des ressources et le financement qui va avec. Donc, on espère aussi qu'avec le rapport, bien, ça va pouvoir donner un élan justement et toujours mettre de l'avant la question de l'intersectionnalité des violences que vivent les femmes.
Merci Manon. Sabrina.
Rapidement, juste souligner qu'on a deux projets de développement de maisons d'hébergement de deuxième étape dans des communautés autochtones. Initiée par des communautés autochtones où l'Alliance sera vraiment en accompagnement au niveau du montage financier, de l'accompagnement de la création de cette maison au niveau immobilier, de ces maisons. Puis l'autre chose, c'est de toujours porter attention à la formation de nos intervenantes. Donc, je pense que ça, on a des discussions, on continue d'avoir des discussions. Puis c'est de maintenir cette ouverture aussi dans nos équipes, il faut le dire clairement, pour être en capacité d'accueillir et d'accompagner ces femmes dans le respect de leur culture.
Merci Sabrina. Alors, on va passer à l'autre série de questions et en fait, je vous propose d'adresser ces questions à Sophie Gagnon de Jury Pop d'abord et j'inviterai les autres panélistes par la suite à ajouter là, s'il y a lieu. Donc, on se tourne vraiment vers la question sur le sujet de l'accompagnement au niveau juridique. Vous y avez différentes panélistes qui ont fait un peu référence depuis le début de la discussion. La question de l'accès aux services d'information et de conseils juridiques. On sait qu'il y a certaines choses qui bougent ou qui ont bougé de ce côté-là. Sophie, est-ce qu'on pourrait t'entendre un peu sur ce qui s'est fait depuis la publication du rapport et peut-être ce qui reste à faire au niveau spécifiquement de l'accès à l'information et aux conseils juridiques?
Avec plaisir. C'est sûr que pour nous, un leg important du rapport, là, c'est comme je disais plus tôt, c'est la reconnaissance de la pertinence du soutien juridique pour les personnes victimes et les survivantes. Ça, c'est un gain, là, à notre avis, que ça fasse l'objet d'un chapitre au complet du rapport rebâti. Et puis, il y a eu des développements dans les derniers mois. Avant la parution du rapport Rebâtir Jury Pop, on s'était vu confier le mandat d'opérer un projet pilote de conseil juridique aux personnes vivant des violences à caractère sexuel. Le projet a été évalué et a démontré la pertinence puis l'impact sur le bien-être des personnes victimes et des survivantes, d'avoir accès à un avocat, une avocate. Puis au mois de septembre, le gouvernement a annoncé la mise en place du programme Rebâtir. Alors, le programme Rebâtir, c'est un programme administré par la Commission des services juridiques qui donne accès à 4 heures de conseils juridiques gratuits aux personnes victimes, tant en violence sexuelle qu'en violence conjugale. Le programme Rebâtir, le gain principal, bien, c'est que ça pérennise un programme de conseils juridiques aux personnes victimes et aux survivantes. C'est un programme qui a l'avantage aussi de faciliter le maillage entre les conseils juridiques gratuits, le réseau d'aide juridique. On le sait, il peut y avoir une intersection entre les violences sexuelles, la violence conjugale et la précarité financière. Donc ça, c'est un avantage à notre avis. C'est un programme qui est offert partout au Québec. Puis en matière de violence conjugale, on est d'avis que ça répond aux besoins de la majorité des femmes victimes, là, de parler à un avocat, une avocate pendant 4 heures. Souvent, les besoins juridiques des femmes victimes en violence conjugale sont assez simples. C'est de leur confirmer, par exemple, est-ce qu'elles ont le droit de quitter le domicile avec les enfants sans en avertir un conjoint violent? Comment elles doivent s'y prendre pour aller récupérer leur possession dans le domicile? Donc, l'accès à la résidence, des choses comme ça. Par contre, on a une préoccupation en matière de violence à caractère sexuel. Le service qui était offert par Juripop auparavant, c'était vraiment un service d'accompagnement juridique. Donc, il y avait une relation avocat-client qui se créait entre les personnes survivantes et un avocat, une avocate de notre réseau, puis on offrait du soutien juridique de manière illimitée dans le temps. Puis en matière de violence sexuelle, les obstacles juridiques sont différents qu'en matière de violence conjugale, puis se caractérisent notamment par le nombre puis la complexité des recours juridiques des personnes survivantes. On tape sur Google, là, agression sexuelle, recours, il y en a tout plein dans plein de domaines de droit. C'est excessivement difficile de les comparer entre eux, puis ensuite de choisir lequel répond mieux à notre besoin. Puis à notre avis, des conseils juridiques téléphoniques, ça risque d'être insuffisant, tant dans la durée que dans l'approche pour répondre aux besoins de la majorité des personnes victimes et des survivantes. Nous, notre recommandation, ça aurait été de continuer d'offrir un service de soutien juridique. Puis on comprend, là, pour des raisons de ressources limitées, ce n'est pas la décision qui a été prise, mais puis on le voit, nous, on continue de recevoir des appels de personnes qui ont utilisé les services de Rebâtir, puis malheureusement, c'est insuffisant. Donc, on va continuer d'observer là, l'opérationnalisation de tout ça. Et en parallèle du programme Rebâtir, un autre mandat a été confié à Juripop, qui est celui, on appelle ça à l'interne un laboratoire, là, mais de représenter gratuitement des survivantes, tant violences sexuelles qu'en violences conjugales, pour d'une part documenter les obstacles d'accès à la justice des femmes, puis d'autre part de proposer des solutions innovantes pour contourner ces obstacles-là. Donc, je peux vous donner des exemples concrets. Dans un dossier la semaine passée en violence conjugale, où on représente d'ailleurs une femme âgée de 88 ans, on a tenté d'obtenir une ordonnance civile de protection. Puis on voulait, entre autres, que le tribunal ordonne à monsieur d'être absent du domicile de la résidence familiale pour que madame puisse aller récupérer ses biens, qu'elle puisse être accompagnée. Puis ça nous a été refusé par le tribunal. Le tribunal a entre autres relevé que le fait que madame n'ait jamais porté plainte à la police pendant des années, bien, ça illustrait le fait qu'il n'y avait pas eu de violence conjugale, puis que de demander à monsieur de s'absenter du domicile alors que c'est une personne âgée, bien, ça stigmatiserait trop monsieur. Donc, le tribunal a conclu que la balance des probabilités, la balance des inconvénients penchait en faveur de monsieur plutôt qu'en faveur de madame. Donc, on a décidé, grâce au mandat qui nous a été confié par l'État et aux ressources qu'on a, de porter cette décision-là en appel. Donc, ce qu'on veut faire, c'est carrément faire jurisprudence. Puis on veut que la Cour d'appel se saisisse de ce dossier-là, établisse les critères qui permettent de reconnaître la violence conjugale dans un dossier, puis balise aussi l'utilisation de l'ordonnance civile de protection. Donc, c'est le tout début. C'est un mandat de 4 ans qu'on a eu. Puis, on espère que dans 4 ans, quand on aura des conversations comme ça, on sera capable de vous faire une liste d'épicerie des changements jurisprudentiels qui auront été faits suite à ce mandat-là. Donc, voilà ma réponse à cette question.
Merci, Sophie. Donc, il y a des choses qui sont en place. C'est peut-être pas suffisant, ça ne fonctionne peut-être pas dans tous les cas, mais c'est des pas dans la bonne direction. En même temps, j'avais le goût de te relancer sur le fait que pour côtoyer depuis longtemps des victimes, des femmes victimes de violences, oui, l'information et le conseil juridique peuvent être un apport très positif, mais un peu comme tu le mentionnais, c'est souvent pas suffisant. Et ce qu'on a entendu à maintes reprises, c'est l'importance de l'accompagnement et de la représentation, notamment dans des situations plus complexes où les femmes sont dans des procédures, par exemple, au criminel, mais où il y a simultanément des procédures, par exemple, en droit de la famille, en protection de la jeunesse, à la Chambre de la jeunesse. Qu'est-ce qui en est de ce côté-là? Est-ce que les choses bougent aussi ou ça demeure un angle mort, la question de la représentation?
Ça demeure un angle mort. Puis ça, cette question-là, je dirais même que ce n'est pas propre aux questions de violence sexuelle, violence conjugale. C'est en matière d'accès à la justice au Québec. On finance beaucoup les initiatives d'information juridique, rarement celles de conseil juridique et jamais, à toute fin pratique, celles de représentation juridique. Le mandat qu'on s'est vu confier là, de représenter gratuitement 25 à 100 femmes victimes par année, c'est du jamais vu là, de notre histoire à Juripa de pouvoir recevoir du financement pour représenter. Pourquoi? Bien, parce que ça coûte très cher. T'sais, un dossier, représenter une personne, c'est quelques milliers, voire des dizaines de milliers de dollars par dossier. Donc, c'est sûr que par dollar dépensé, on rejoint moins de personnes, mais l'impact est beaucoup plus grand, en particulier pour les communautés qui sont vulnérabilisées. Donc, nous, ce qu'on espère démontrer avec notre mandat, c'est la pertinence des services de représentation adaptés, spécialisés en matière de violence sexuelle et de violence conjugale et qui sait peut-être qu'un jour, ce sera ajouté au panier de services de l'aide juridique. Mais on voit qu'il y a de l'écoute là, de la part du gouvernement, qu'il y a un intérêt là, à tester la pertinence de ces services-là. Puis c'est le mandat qui nous a été donné justement.
Parfait, merci beaucoup Sophie. Alors, je ne sais pas si les autres panélistes voulaient se prononcer sur la question de l'information, du conseil ou de la représentation juridique. Oui, Sabrina.
Mais dans le rapport venait aussi l'importance de créer une banque d'avocats spécialisés. J'ai l'impression qu'on est dans cette première étape-là avec le mandat qui a été donné à Juripop. Dans le tribunal spécialisé aussi, il y a le rôle du coordonnateur, hein, donc pour amener à ce que chaque cour se parle. Donc, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, rebâtir, c'est beaucoup, beaucoup de recommandations, mais il faut juste qu'elles se mettent en place de manière logique pour éviter de décevoir les victimes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Comme je le disais, j'ai fait partie de ces conversations-là très actives au niveau du conseil juridique et j'étais la première à dire le conseil juridique, ça va faire. Là, ce qu'on a besoin, c'est d'accompagnement concret. Cependant, moi, ce que je vois du côté maison d'hébergement, là, c'est que ces femmes-là, ce 4 heures est très rassurant parce qu'il peut être très rapide. Donc, elles arrivent, le lendemain, on est capable d'appeler, elles ont des réponses, elles sont accompagnées par des intervenantes spécialisées en violence conjugale. Du coup, ça les rassure et elles sont très vite référées, celles qui sont éligibles à l'aide juridique. Et ce lien qui est fait aussi, elles se font dire « rappelle-moi si tu n'as pas les services dont tu as besoin, puis on va continuer de t'accompagner ». Ça, moi, excusez-moi, là, je n'étais pas persuadée au départ, mais ça, je trouve ça pertinent parce qu'il y a une espèce d'imputabilité de suivi et c'est très rassurant parce qu'attendre 2 semaines, 3 semaines ou pendant la COVID bien plus pour avoir un rendez-vous à l'aide juridique, c'est très insécurisant. Puis ça amène aussi que les conjoints entament. Souvent, ils ont une meilleure situation financière, entament plus vite que nous, que les femmes, les démarches juridiques, et c'est elles qui se retrouvent mal prises et puis qui sont accusées d'enlèvement d'enfants et d'autres choses. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore dans la formule idéale. C'est pour ça qu'il faut pousser les maillons qui manquent pour que cette formule d'accompagnement soit complète.
Merci Sabrina, fort intéressant. Louise.
Bien, ce qu'il y a aussi de plus au niveau de la représentation, c'est que l'aide juridique a maintenant la possibilité de faire des représentations pour des mesures d'urgence, peu importe que les gens soient financièrement démunis ou pas. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été beaucoup utilisé, publicisé, ce service-là, mais moi, je trouve que c'est intéressant. Il y a plusieurs années, il n'y a pas une femme qui sortait d'une maison d'hébergement sans avoir des mesures intérimaires, qui avait réglé la garde des choses et qui donc protégeait tout le monde. Maintenant, les délais sont tellement longs qu'effectivement, quand les femmes quittent la maison, souvent, ce n'est pas réglé. Donc, moi, j'ai espoir que ces mesures d'urgence-là pourront, dans certains cas, sécuriser la situation de femmes et d'enfants. Fait que ça, c'est un élément de plus là, qu'il va falloir suivre et s'assurer qu'il soit vraiment disponible. Par contre, il y avait une mesure que nous, on trouvait bien intéressante d'en rebâtir la confiance, dont personne ne semble s'être saisi. Il y avait une recommandation à l'effet que des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et des avocats de l'aide juridique puissent se rendre dans les calates, dans les maisons, pour faire de l'information aux femmes et par conséquent aux intervenantes. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que c'est sûr qu'en maison, on donne une information minimum aux femmes. Là, on ne dépose pas le mandat qu'on peut faire comme non-juriste. Mais je pense que si on veut redonner confiance, il faut aussi redonner confiance aux intervenantes et il faut s'assurer que l'information qu'elles transmettent aux victimes est juste. Puis moi, je trouvais que ça aurait fait de la formation continue en plus de faire de l'information des victimes, cette mesure-là. Alors, j'espère que dans un avenir qui n'est pas trop loin, on mettra en œuvre ça, que ce soit à partir de rebâtir par des rencontres virtuelles ou que ce soit avec les avocats de l'aide juridique du district et avec les procureurs du coin, qu'on pourra établir ces collaborations-là qui donneront une meilleure information, qui permettront aux femmes d'avoir leur juste et de savoir dans quoi elles s'embarquent.
Merci, Louise. Alors, on va passer maintenant au prochain bloc de questions avec Isabelle.
Je vais maintenant adresser quelques questions plus spécifiquement à Sabrina pour discuter des recommandations qui ciblent les auteurs de violences, parce que dans le rapport, il y a toute une partie, il y a toute une série de recommandations qui s'intitule « Ne pas ignorer les auteurs de violences ». Puis, évidemment, les panélistes, vous êtes aussi les bienvenus pour commenter. Donc, Sabrina, en termes d'offres de services, on insiste beaucoup dans le rapport sur l'importance qu'il y ait des programmes destinés aux conjoints violents dans toutes les régions du Québec, donc que les régions soient bien desservies par ces programmes-là. Dans le contexte actuel, est-ce que les régions sont desservies et sinon, est-ce qu'il y a des développements de ce côté-là, donc du côté de l'offre de services?
Bien, je dirais que ça, c'est beaucoup ce qu'on a réussi à avoir, dans le fond, un meilleur portrait, puis on va l'avoir encore plus quand les rapports vont sortir, mais le travail qui a été confié à Sylvain Lévesque, justement, de faire une espèce d'état des lieux de la couverture de services, va nous permettre d'avoir une idée plus exacte de où est-ce qu'ils sont les régions, puis c'est pas nécessairement... On pense vite comme ça, on va dire, la couverture de service, c'est nécessairement en région qu'il y a des trous, mais pas nécessairement. Il y a des trous de service aussi assez criants dans les régions urbaines. Puis une fois qu'on les a identifiés, encore faut-il avoir les ressources pour justement les combler. Là, présentement, nos organisations ont reçu un financement supplémentaire qui a majoritairement servi à engager vraiment des nouvelles intervenants, des nouvelles personnes. Comme vous le savez, puis c'est souvent la même chose pour les intervenants en maison d'hébergement ou dans les services pour victimes ou survivants, c'est extrêmement difficile de trouver du personnel qualifié, le recrutement est vraiment difficile. Pour la plupart, on a réussi à augmenter la couverture de services. Il y a certains points de service qu'on a réussi à ouvrir aussi là, avec ce financement-là, de déménager dans certains locaux plus grands pour pouvoir ouvrir plus de groupes, d'avoir plus... la bonne nouvelle, en fait, c'est que au bout du compte, dans l'année, on a une augmentation de personnes qui ont reçu des services d'à peu près 40 % dans tout le réseau au complet. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Sauf qu'au niveau des listes d'attente, on n'a pas eu un impact significatif parce que la demande a augmenté. Fait qu'on, au bout du compte, on va avoir desservi plusieurs hommes, mais on a quand même la difficulté à faire baisser les listes d'attente. Puis il va falloir continuer à solidifier puis à consolider le réseau. Puis il va falloir, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il va falloir trouver des solutions plus créatives que de dire seulement il faut ouvrir un organisme à telle place, tout ça. T'sais, est-ce que ça va prendre, on lançait des idées comme ça, on se disait, bien, on examine-tu l'idée d'avoir des espèces de cubicules isolés avec du virtuel, puis qu'on puisse être capable de prêter ces locaux-là, par exemple, dans des bibliothèques où les personnes pourraient avoir accès à des services, puis qu'on pourrait partager ça avec d'autres personnes, de d'autres organismes communautaires, une autre clientèle, puis essayer de donner plus accès aux services. Puis, entre autres, pour les populations, mettons, anglophones ou hispanophones, bien, on a certains intervenants qui sont à même de faire de l'intervention en anglais ou de l'intervention en espagnol, mais c'est pas accessible partout. Donc, avec la magie du virtuel, qui a beaucoup de limites, là, on s'entend, mais qui peut quand même permettre ça, bien, on essaie d'examiner là, comment on pourrait s'organiser pour avoir une meilleure couverture de services, mais ça va être un gros défi, ça aussi. Encore une fois, le manque de ressources est criant.
Mm-hmm. Fait que j'entends qu'il y a des développements, mais que parallèlement, il y a beaucoup de demandes, puis encore beaucoup de besoins, puis faut-il trouver le personnel, parce qu'en violence conjugale, on le sait, on ne peut pas juste mettre quelqu'un comme ça. Mm-hmm. Ça prend des connaissances, il faut être bien formé. Donc, des éléments positifs, mais encore certains défis. Je vais te relancer, Sabrina, si tu me permets. On avait une question un petit peu plus technique pour toi, là, un peu. Mais tu sais, dans le rapport, il y a une des recommandations qui porte sur les références systématiques des policiers vers une ligne de référence pour auteurs de violence. Est-ce que ça se fait présentement?
C'est-à-dire que la ligne n'existe pas. Donc, nous sommes en train justement de travailler à la création de ça. Je vous dirais qu'on avait commencé, on a reçu un financement pour faire une plateforme web, donc où la personne, soit les proches ou les personnes auteurs pourraient se diriger puis avoir un début d'outils, des outils, un début de sensibilisation, une démystification de comment ça se passe, l'accompagnement, tout ça. Donc, c'est comme un premier pas, puis on voulait vraiment, tu sais, justement aller rejoindre plus de personnes par ce modèle-là. Puis notre espoir était de greffer à ça, un peu comme le fait SOS Violence Conjugale, un système de clavardage et éventuellement la référence à une ligne téléphonique d'écoute puis de prise en charge. Et là, ben, je crois qu'on va devoir mettre la pédale au fond puis vraiment accélérer le processus parce que ce qui devait être la phase 2 finalement va vraiment se concrétiser plus rapidement. Puis même ultimement, notre souhait le plus cher, je ne sais pas si on va réussir, mais ça serait de lancer tout ça ensemble, c'est-à-dire d'avoir la plateforme, mais qui a un landing, une piste d'atterrissage qui serait vraiment la ligne téléphonique 24/7 où il y aurait des intervenants formés puis qui seraient capables de sécuriser les situations puis s'assurer qu'on n'en échappe pas là, parce que ça serait ça le but ultime. Puis on travaille dessus, mais encore une fois, vous connaissez la machine, tout ça, donc il y a tout un aspect technique au niveau là, des lignes d'écoute, puis un aspect aussi, c'est surtout ça prend du monde pour répondre. Mmh. Puis on ne peut pas lancer ça, publiciser ça, puis qu'au bout du compte, on manque de personnel, puis que là, ça soit pire. Il faut vraiment que si on décide de lancer ce projet-là, qu'on soit assuré qu'il va y avoir des gens compétents qui vont répondre et qui vont être capables de faire le travail.
OK. Fait que j'entends que ça va possiblement être un dossier à suivre, mais dans le moyen terme, là, plus dans peut-être la prochaine
année. Un an et demi, là, mais oui, c'est sûr que. Tu sais, je pense que tout le monde s'entend. Puis, tu sais, je parlais justement avec les personnes d'SOS Violence Conjugale, avec quelqu'un qui, elle me disait, on aimerait tellement ça, pouvoir justement référer, puis que ça soit plus facile, parce que quand nos services sont pas ouverts, on est ouvert sur les heures de bureau. Puis, malheureusement aussi, par manque de, c'est pas tous les organismes qui ont une réceptionniste, donc souvent, ça tombe sur la boîte vocale, même quand on est dans le jour. sais, c'est pas acceptable, là. Mais on n'a pas le choix, on fait ce qu'on peut, mais idéalement, il ne faudrait pas que ça arrive jamais, là, qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui répond.
Oui. Une des recommandations du rapport, c'est d'améliorer, d'encadrer et d'évaluer les programmes pour conjoints violents et voir est-ce qu'ils reçoivent une accréditation, comme ça se fait en Ontario puis dans certains États américains. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce processus-là?
Bien, par rapport à ça, c'est certain que c'est pas d'hier là, qu'on en parle de ça. Donc, nos membres, ça fait un bout de temps qu'ils réfléchissent à cette situation-là. Je dirais que on est d'emblée absolument pas contre le principe d'améliorer, d'évaluer. Puis, tu sais, dans le fond, ce que ça dit le rapport, tu sais, le libellé dit vraiment la mise en commun, l'évaluation, puis au besoin, la révision puis la bonification des services. Ensuite, on parle de possible accréditation. Fait que je dirais que pour les premiers, la mise en commun, l'évaluation puis la bonification puis de s'appuyer sur les meilleures pratiques, on a mis sur pied un comité d'encadrement des pratiques au sein de l'association. Et on a aussi, on participe aussi là, à deux recherches là, qui vont nous aider à justement nous donner du data pour vraiment là, bien identifier toute la trajectoire de service puis s'assurer qu'on fait le mieux possible, puis identifier les lacunes, puis tout ça. Donc, on a commencé à le faire, nous, à l'interne. Aussi, on est en train de regarder, on a déjà, quelqu'un qui est membre d'Accordum a déjà, il y a déjà un processus d'admission, il y a un processus pour devenir membre. Donc, il y a des choses qui sont évaluées, mais ça n'a jamais vraiment été rendu public, on n'en a jamais vraiment parlé. T'sais, je pense qu'il y a aussi, on a comme un devoir aussi de transparence, puis d'expliquer aux gens, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, comment on accepte les membres, puis qui peut devenir membre d'Accordum et les valeurs qu'on partage, puis la façon dont on travaille. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que nos organismes travaillent avec deux sortes de clientèle. On a la clientèle qui est judiciarisée. Donc, cette clientèle-là, on comprend que le suivi par rapport à cette clientèle-là doit être amélioré. Par contre, ce n'est pas sur nous que repose la responsabilité du suivi des mesures ou des ordonnances, des juges, tout ça. C'est vraiment les agents de probation qui se doivent de communiquer avec nos services quand il y a une ordonnance. Donc, ça va être probablement d'utiliser les ressources qui sont déjà en place, mais de mieux les utiliser, de s'assurer qu'on est capable d'avoir une meilleure communication, que les intervenants sont mieux formés à savoir quand est-ce qu'ils peuvent lever le voile de la confidentialité ou pas, puis qu'ils le fassent de façon systématique, tu sais, quand c'est nécessaire. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on va travailler. Fait que, tu sais, de voir avec la sécurité publique, la justice, le système carcéral, tout ça qui dépend du suivi. Tu sais, tantôt, vous parliez de donner l'information des conditions de remise en liberté ou des conditions de probation à la victime. Souvent, nous, on ne les a même pas parce que le gars ne nous les transmet pas. Donc, si le gars nous arrive dans nos services par le biais d'une ordonnance, d'un juge, tout ça, il y aurait-il moyen que les intervenants aient accès justement à ces conditions-là puis s'assurent que les gars les respectent? Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses à améliorer qui seraient simples, qui ne coûtent pas d'argent. C'est vraiment juste de se dire, bon, bien, on voit que là, il y a un manque, il y a un trou. On veut améliorer le filet de sécurité. Comment on peut le faire en travaillant avec les acteurs qui sont déjà sur le plancher? Donc, c'est des choses qu'on se questionne puis sur lesquelles on travaille, mais ça va dépendre beaucoup de nos partenaires qui sont eux aussi très débordés, très sollicités. Mais il reste que des projets pilotes au niveau de la remise en liberté, comme ce qui était, ça c'est une autre des recommandations là, qui disait qu'on devrait étendre partout là, l'évaluation des conjoints là, au stade de la remise en liberté. Nous, on trouve que c'est une super bonne idée, puis c'est une super bonne initiative. Puis il n'y a rien de mieux que une intervenante qui va vraiment, tu sais, un agent de probation qui va vraiment faire le tour de la question, qui va regarder la situation du point de vue de la victime, s'assurer que, qu'elle est entendue, puis s'assurer aussi d'avoir les conditions gagnantes pour que monsieur respecte ces conditions. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de bris de conditions. Donc, c'est pas mal tout ça qu'on travaille là, dans nos services en lien avec le rapport. Je ne sais pas si ça répond aux questions.
Oui, mais vous avez du pain sur la planche avec tout ça dans les prochains mois, les prochaines années, ça répond bien. Peut-être avant de passer au prochain thème, je ne sais pas s'il y a des panélistes qui voulaient réagir, commenter, ou Alexandra, s'il y a des commentaires ou des questions dans la salle, c'est pas vraiment dans la salle, là, mais au niveau des participants,
Oui, on a une question sur spécifiquement pour Acardom. Est-ce qu'il y a eu un rehaussement du financement dans les organismes de votre groupement pour aider à la responsabilisation des hommes violents et la réduction de la récidive? Et une autre question un peu plus large, peut-être que les autres personnes voudront répondre aussi. Comment intégrer l'expertise des femmes victimes de violences conjugales et des services auprès des femmes dans la visée de services plus intégrés pour éradiquer la violence conjugale, donc des services plus spécifiques aux conjoints violents?
Oui, le financement, on a eu un rehaussement de financement, mais le financement était vraiment pour améliorer la couverture de services, donc pour engager plus d'intervenants, pour être capable de donner les services à plus d'hommes au Québec. Donc, c'est ça que visait le financement, mais le financement a été octroyé, mais c'est ça, on peine à combler les postes qui sont ouverts. Même nous, à l'association, on a ouvert un poste pour un coordonnateur ou une coordonnatrice à la formation, soutien clinique et recherche. Donc, cette personne-là va devenir la personne clé qui va nous aider principalement là, à faire l'état des lieux sur les meilleures pratiques, tout ça, puis sur la littérature, puis tout ça. Donc, c'est vraiment un poste important. On attend avec impatience qu'on puisse le combler, mais ça n'a pas été possible jusqu'à maintenant. Donc, le financement a servi principalement à ça, à accentuer la couverture de services. C'était vraiment ça le mandat que le gouvernement s'était donné. Puis pour ce qui est de la deuxième question, nous, on est dans tout ce qu'on va faire pour l'encadrement des services, puis dans l'élaboration des meilleures pratiques, c'est certain qu'on veut tenir compte de l'expertise que les personnes qui interviennent auprès des victimes, des survivantes détiennent. C'est crucial. Puis c'est pour nous, c'est super important d'incarner la relation égalitaire qu'on prône dans la société, mais de l'incarner entre nous, entre les regroupements, entre les intervenants, autant ceux qui interviennent auprès des hommes que ceux qui interviennent auprès des femmes. Donc, pour nous, oui, c'est important, puis on va trouver une façon d'intégrer cette expertise-là. On s'attend à être interpellé de la même façon pour qu'on puisse toujours travailler en collaboration. C'est vraiment ça l'objectif qu'on a, c'est de pouvoir mettre tout en commun parce qu'on a l'impression que c'est la seule façon qu'on va y arriver.
Mm-hmm. Merci. Merci Sabrina. Merci Alexandra. Je vois que l'autre Sabrina voulait réagir.
C'est rare que j'ai une autre Sabrina en même temps. Là. Bien, nous, à l'Alliance, lors de notre Assemblée générale, on a vraiment posé cette question-là à nos membres. Donc, comment vous collaborez avec les organismes qui interviennent auprès des conjoints violents? Et on avait aussi invité des maisons d'hébergement de deuxième étape qui avaient des projets ou des collaborations, je dirais, positives à les mettre de l'avant. Donc, ça existe, c'est possible. Et la clé du succès, je dirais, c'est vraiment d'avoir une approche qui vise la responsabilisation. Donc, pour un retour revenir au niveau de l'accréditation, je pense que c'est vraiment ça, l'accréditation, ce qu'elle peut amener. C'est de s'assurer qu'à la grandeur du Québec, tous les organismes qui interviennent auprès des conjoints ayant des comportements violents et cette approche-là, la responsabilisation, reconnaissent la définition de la violence conjugale. Et à partir de ce moment-là, on va enfin pouvoir mettre en place des collaborations parce qu'on aura les mêmes bases. Parce qu'on va partir avec la même approche. C'est certain qu'actuellement, comme je dis, on a eu des exemples positifs, mais on a eu aussi des choses vraiment, je dirais, assez inquiétantes dans certaines régions, dans certaines villes. Et ça, on ne peut pas se taire parce que le rapport, il l'a mis de l'avant. Puis moi, je le vois plus comme quelque chose, c'est confrontant, se regarder, puis accompagner, je veux dire, on le sait là, dans les regroupements, accompagner nos membres vers des changements de pratiques. Mais il faut absolument que ce changement-là ait lieu. Et l'accréditation nous semble être la meilleure voie pour permettre vraiment cette normalisation des services, mettre tout le monde, je veux dire, en lien avec cette approche de responsabilisation.
Merci. Est-ce que Sabrina, tu voulais réagir?
Oui, pas longtemps, vraiment de façon très, très succincte. Tu sais, en fait, ce qui, c'est surtout la forme, c'est un peu, comment je dirais ça? Tant que ce n'est pas précisé sous quelle forme on voit ça, l'accréditation, puis comment tu sais, ça va être de mieux le définir. Mais pour au niveau du principe, puis si je peux rassurer, c'est vrai que des secteurs ou des territoires où la collaboration est plus difficile, effectivement, pour plein de raisons. Puis je pense que tu sais, de part et d'autre, il y aurait des améliorations à faire. La concertation, c'est pas facile, c'est vraiment difficile, puis il faut mettre beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne. Donc, je pense que tu sais, c'est ça. Donc, c'est vraiment de voir tu sais, que je dirais 95 % de nos services visent la responsabilisation. S'il y en a qui ne le font pas encore, nous, ça va être d'identifier, je dirais, les personnes ou les organismes qui ont plus de difficultés à adopter cette voie-là ou qui n'utilisent pas cette approche-là, alors que pour nous, ça fait partie de la base, puis c'est dans notre charte, puis ils doivent adhérer à ça. Et pour être membre d'Accord d'Hommes, normalement, sont supposés justement de travailler la responsabilisation et l'arrêt d'agir, c'est les deux choses les plus importantes, les deux fondements. Donc, s'ils ne le font pas, là, c'est là que ça devient un peu plus difficile pour nous, étant donné que c'est des organismes autonomes, des organismes communautaires autonomes, mais déjà d'identifier le problème. Puis là, de la façon qu'on s'est positionné la dernière fois qu'on a rencontré nos membres, puis qu'on leur en a parlé, puis qu'on leur a présenté ça, le comité de travail sur l'encadrement des pratiques, puis je vous le dis, là, ça a été accueilli de façon favorable. On s'attendait à beaucoup plus de résistance que ça, mais je pense que de la façon qu'on l'a présenté, puis ce qu'on s'est donné comme mandat à l'association aussi, c'est d'accompagner les personnes qui n'ont pas, là, je dirais, une approche aussi responsabilisante que ce qu'on voudrait. C'est de se montrer comme vraiment l'association est là pour les aider, on va les soutenir, on va s'assurer que ça soit fait. Pour ce qui est de l'accréditation comme telle, bien, tant qu'on n'aura pas vraiment d'idées de qu'est-ce que le gouvernement entend nous demander comme standard, bien nous, on essaye là, à l'interne justement de se donner un standard commun puis de le définir. Ça serait quoi le standard minimal que toutes les organisations devraient avoir? C'est dans l'établissement finalement de ce standard minimum-là, comme je vous le disais, que c'est certain qu'on va impliquer justement nos partenaires qui travaillent auprès des victimes pour s'assurer qu'ils soient rassurés, parce que c'est ça qu'on veut. On veut que tout le monde soit rassuré puis travaille dans le même sens. Donc, c'est ça. Je disais que j'avais été succincte, je ne l'ai pas été, je suis désolée.
C'est correct. Merci, Sabrina. Là-dessus, on va clore la discussion au niveau des auteurs, puis on va passer, parce que là, je vois le temps qui file, puis on a encore quelques thèmes à aborder, mais... une des questions qu'on avait pour nos panélistes, c'est par rapport à toute la question du tribunal ou des tribunaux spécialisés. On entend un peu les deux, là. On va dire le tribunal spécialisé. Puis on le sait, ça a été beaucoup dans l'actualité ces temps-ci, dernièrement. Puis on sait aussi que ça a été quand même assez bien accueilli là, dans vos milieux. On sait que vous avez réagi assez positivement. Puis tout nous indique présentement que ça va aller de l'avant. Bien, en fait, ça va aller de l'avant dans certaines régions pilotes. Mais ce qu'on aimerait vous entendre, c'est est-ce qu'à cette étape-ci, vous avez certaines préoccupations, craintes ou interrogations par rapport à l'instauration du tribunal. Donc, je ne sais pas qui voudrait se lancer par rapport à ça. Sophie.
Sujet passionnant, s'il en est un, bien, c'est sûr qu'évidemment, on a été plusieurs dans le milieu là, à saluer la rapidité de la mise en œuvre de cette recommandation-là. Je n'ai pas fait partie des partenaires qui ont soutenu, qui ont appuyé le projet de loi. Puis en effet, on a émis dans nos mémoires, par contre, certaines préoccupations. Ça me fait plaisir de vous les partager aujourd'hui. La première, qui est comme une préoccupation d'ordre général. On s'est beaucoup réjoui quant au fait que le tribunal spécialisé qui verra le jour au Québec va être le premier sur la planète à gérer en même temps à la fois les violences sexuelles et la violence conjugale. Donc, c'est certain qu'on a salué l'intention de traiter ces deux violences genrées-là sur le même ordre de priorité. Mais par contre, il reste qu'il s'agit de deux formes de violences différentes qui amènent une victimologie différente, des besoins juridiques différents, des expertises différentes. Puis notre préoccupation, c'est que d'amalgamer ces deux types de personnes victimes et de survivantes-là, ces deux types de besoins, ces deux types d'expertise. Donc, nous, on a vraiment fait une recommandation d'ordre général là, aux législateurs pour que les personnes qui soient appelées à travailler sur le tribunal spécialisé proviennent des deux champs d'expertise différents, puis que les services s'adaptent aux deux catégories de personnes victimes et des survivantes, sans pour autant les traiter en silo, parce qu'évidemment, ça arrive plus souvent qu'autrement que dans des dossiers de violence conjugale, il y a des composantes de violence sexuelle et l'inverse peut aussi être vrai. Donc, suivant cette logique-là, on a émis nos recommandations dans deux catégories, là, vraiment violence sexuelle d'un côté, violence conjugale de l'autre. Pour ce qui est des violences à caractère sexuel chez Juripop, ce qu'on a constaté, ça a été très visible au moment de la vague de dénonciation à l'été 2020, c'est qu'une des raisons pour lesquelles les personnes survivantes se tournent vers les réseaux sociaux plutôt que vers la police, c'est d'une part parce qu'il y a une crise de confiance envers les tribunaux, mais c'est aussi d'autre part parce que la justice traditionnelle ne répond pas à tous les besoins des personnes victimes et des survivantes, entre autres aux besoins de réparation. On s'est fait dire, moi, ce que je veux, là, mon agresseur, c'est mon ex-conjoint ou c'est un ami ou un collègue ou un membre de ma famille. Je ne veux pas qu'il aille en prison. Je ne veux pas non plus qu'il me verse de l'argent. Je veux qu'il reconnaisse qu'il m'a fait mal. Je veux qu'il s'excuse puis je veux qu'il s'engage à ne plus recommencer. Puis nous, en ce moment, les avocats, les avocates, en fait, l'entièreté du système de justice ne sommes pas équipés pour répondre à ce besoin-là. Au contraire, aujourd'hui, là, un auteur de violence qui s'excuserait ben, risquerait de faire un aveu qui pourrait lui être opposable en matière criminelle. Puis ça, on considère que c'est un obstacle important pour la réparation des personnes victimes. Alors, on considère que c'est un pas dans la bonne direction, le tribunal spécialisé, mais on doit décloisonner notre définition de la justice si on veut véritablement offrir une réponse qui répond aux besoins des victimes et des survivantes. Et puis, en matière de violence conjugale, notre cheval de bataille chez Juripop, c'est vraiment de s'assurer que le droit de la famille pénètre la culture de concertation qui existe, qui a été mise en place, puis qui jusqu'à présent est surtout concentrée sur le droit criminel, un peu plus le droit de la jeunesse. Donc, on considère que si le tribunal spécialisé vraiment conserve des œillettes pénales criminelles, bien, ça va revenir à créer deux catégories de victimes, à savoir celles qui peuvent ou qui décident de porter plainte à la police ou encore, et de l'autre côté, celles qui ne portent pas plainte à la police. Puis depuis le début, là, on insiste sur les personnes qui sont vulnérabilisées. Les personnes qui sont marginalisées ont aussi moins accès aux plaintes à la police. Je pense aux personnes dont le père de l'enfant n'a pas de statut migratoire régulier au Canada. Bien, évidemment, la victime ne va pas porter plainte à la police. Ça pourrait avoir pour effet que le père des enfants soit déporté, mais pourrait par ailleurs avoir des procédures en droit de la famille. Donc, on espère que les mesures qui seront mises de l'avant vont aussi inclure les tribunaux civils, puis en particulier le droit de la famille. Puis on a plein d'autres recommandations, mais je sais que mes collègues auront des points de vue aussi enrichissants, sinon plus que les miens. Alors, sur ça, je m'arrête et je leur cède la parole.
Merci, Sophie. On va passer à Louise.
L'adoption du projet de loi 92 la semaine dernière, c'est une très bonne nouvelle. Mais effectivement, il faudra s'assurer que ça atterrisse de façon à porter tous ses fruits. Et je pense que la première question, c'est les ressources. Est-ce que les ressources seront suffisantes pour accompagner les victimes au plan psychosocial, mais aussi au niveau de la police, au niveau des procureurs? Des ressources, ça veut dire de l'argent. Ça veut c'est-à-dire du temps, si on veut que vraiment on s'adapte à la réalité des victimes, ça veut dire qu'il faut avoir le temps de bien faire les choses. Fait que ça, c'est la première question, je pense, qu'il faut se poser. L'autre question, c'est l'intégration. Effectivement, est-ce qu'on pourra profiter de toutes les expertises qui existent pour s'assurer qu'on va bien accompagner les victimes? Si on regarde dans les maisons, dans les CALAC, on ne voit pas les victimes nécessairement à partir du premier contact avec la police, on les voit souvent bien avant. Et on peut jouer un rôle. Si je prends dans les maisons, on accompagne les femmes non seulement dans le processus criminel, mais aussi dans leur processus en droit de la famille, dans la réorganisation de leur vie, dans l'évaluation des risques. Donc, il faut que tout ça puisse être mis à profit. Sophie parlait du fait que ça va être un tribunal agression sexuelle, violence conjugale, et nous, on a beaucoup plaidé pour dire oui, c'est une belle nouvelle, mais attention, quand on est en violence conjugale, on est avec la violence qui est encore active, avec des risques pour la sécurité, avec, quand il y a des enfants, souvent une obligation d'être en contact avec l'agresseur qui est le père des enfants. Si effectivement le droit de la famille, la protection de la jeunesse ne tient pas compte de la victimisation, on risque de ruiner tout ce qu'on pourrait amener comme mesure de protection au niveau criminel. Fait que ça, c'est des éléments importants. Et l'autre chose, on parle de la reconnaissance de ce qui a été fait et de réparation, mais il faut se rappeler qu'en violence conjugale, on est face à des agresseurs qui non seulement vont avoir contrôlé, manipulé leurs victimes, mais aussi qui tentent de manipuler le système. Et il faut faire attention qu'on ne soit pas face à une reconnaissance factice pour échapper à la sanction. C'est sûr que tout le monde souhaiterait effectivement que des agresseurs disent « je vais changer, je ne le ferai plus » et certains peuvent le faire. Mais quand on regarde des hommes qui ont utilisé le contrôle coercitif pendant des années auprès de leur conjointe, c'est pas si simple. Donc, je trouve qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on tombe pas par manque de ressources ou par idéologie ou par... en tout cas, une vision différente vers des tribunaux qui nous amèneraient beaucoup de déjudiciarisation. C'est ce qu'on voit en violence conjugale ailleurs au Canada. Et donc, il va falloir travailler fort pour s'assurer que le système sera là pour chacune des victimes, mais sera là aussi parce qu'il doit jouer un rôle de dénonciation sociale de la violence. Donc, nous, c'est les préoccupations qu'on a et qu'on va certainement porter là, dans le rôle actif qu'on va jouer au niveau des projets pilotes.
Merci, Louise. On va passer à Sabrina.
Est-ce que je trouve plus mon micro? Pour nous, en fait, le tribunal spécialisé, ce qu'on a trouvé de dommage, là, je dirais, c'est qu'on n'a pas tant été impliqué là, sur les travaux. On a eu une rencontre avec le ministre Jeanne Barrette où on a, pendant 40 minutes, parlé un peu de nos préoccupations puis du fait qu'on voyait plusieurs opportunités dans la trajectoire des personnes. On voyait plusieurs endroits où notre expertise pourrait être sollicitée pour maximiser, je dirais, le respect des conditions, la façon de faire pour pas envenimer ou pour pas créer un sentiment d'injustice qui mène à de la vengeance puis tout ça. Donc, tu sais, il y a moyen de travailler auprès de la personne accusée d'une certaine façon qui fait en sorte qu'on va pas exacerber encore plus le problème qu'on voudrait pas que ça arrive. Puis, donc, c'est ça. Donc, ça serait, nous, ce qu'on voudrait, c'est être plus impliqués là, dans le processus. Donc, faire partie de la table de consultation, de travail. Malheureusement, je pense moi, je n'étais pas en poste à ce moment-là. On n'a pas déposé de mémoire comme telle par rapport à ça. C'est peut-être ça qui fait qu'on n'a pas été consulté plus que ça. Mais je pense que ça pourrait être vraiment une bonne chose là, qu'on puisse... avoir au moins une voix pour faire entendre les solutions qu'on aurait à proposer.
Mm-hmm. Merci Sabrina. On va passer à Roxane, puis ensuite Manon. Puis je ne sais pas si Sabrina Lemelletier, tu voulais commenter aussi par rapport aux tribunaux spécialisés, mais Roxane.
Oui, bien, en ce qui concerne les projets pilotes, les régions qui accueilleront les tribunaux n'ont pas encore été annoncées. Alors, d'un côté, on espère vraiment qu'il y aura des réalités assez variées pour que l'expérience soit concluante, puis qu'on puisse vraiment mettre la formule à l'épreuve. Là, on n'a qu'à penser à des régions où il y a des cours itinérantes ou encore des régions où il y a une population issue de l'immigration qui est plus importante. D'autres détails qui restent à préciser, c'est par rapport à cet amendement dont on est très heureuse pour que la formation auprès des intervenants des milieux policiers et judiciaires concerne justement tous les acteurs du système et non seulement les juges, mais les modalités de cette formation-là restent à voir. Ça va dépendre beaucoup du contenu, de ce qu'on entend par « en continu ». Et encore une fois, on peut seulement espérer que l'expertise du terrain va être écoutée dans l'élaboration de ces cours-là. Du côté de nos préoccupations, ben, je dirais qu'il y a toutes ces tensions avec la Cour du Québec qui nous amènent à craindre qu'il y ait peut-être un dédoublement qui pourrait susciter de la confusion. Sinon, je dirais que les tribunaux spécialisés s'alignent beaucoup avec nos revendications pour ce qui est de plus de formation, une réduction des délais, un processus juste généralement plus centré sur la victime. Mais comme l'a dit Louise, il reste à voir si les ressources seront vraiment au rendez-vous pour livrer toutes ces belles promesses. Et même si le gouvernement met vraiment le paquet là-dessus, on s'entend que ce ne sera pas une solution miracle. Dans le cas des agressions à caractère sexuel, ça représente des crimes souvent sans témoin où il faut démontrer que la victime n'était pas consentante. Quand on regarde les fameux chiffres de Statistique Canada, qui nous disent que sur l'ensemble des agressions sexuelles qui lui ont été déclarées, il y en a seulement 3 sur 1000 qui se soldent par une condamnation, bien, on voit bien qu'il ne sera pas suffisant de rendre le processus moins pénible avec quelques ajustements. Une bonne partie des survivantes ne passeront jamais par là, et celles qui le font auront souvent une expérience pour le moins décevante. Donc, il ne faut pas oublier que le droit, ça va vraiment au cas par cas. Puis la problématique de la violence envers les femmes ne peut pas être adressée au cas par cas. Ça s'inscrit dans des rapports de pouvoir et ça demande une transformation sociale. Je sais que j'ai élargi le sujet beaucoup, là, mais c'est important pour nous souligner qu'il y a des changements beaucoup plus fondamentaux qui s'imposent. Puis que l'enjeu, ce n'est pas d'encourager les victimes à se tourner ou non vers les tribunaux, mais vraiment qu'elles soient bien accueillies, écoutées, soutenues dans ce qu'elles choisissent d'entreprendre. Mm-hmm. Voilà.
Merci Roxane. On va passer à Manon.
Oui, bien sûr que l'arrivée des tribunaux spécialisés, c'est quelque chose de... c'est quelque chose d'extrêmement positif. On est quand même, quand on regarde à travers le monde, on a quand même du rattrapage à faire. Ça existe un peu partout et sous des formes différentes, mais effectivement, la réponse, les ressources qui seront mises en place, c'est effectivement une préoccupation parce que plus on va aller de l'avant dans l'implantation des tribunaux spécialisés, est-ce qu'on va pouvoir effectivement répondre à tous les besoins? À la Fédération, c'est seulement 23 % des femmes qui décident de porter plainte. Si le processus judiciaire s'améliore grandement et que les voies de passage sont beaucoup plus à l'écoute des besoins des femmes, si on arrive à un 100 % des femmes qui décident de porter plainte d'une façon ou d'une autre, est-ce que le système sera capable effectivement de répondre à tous les besoins? Ça, c'est une chose. Il y a encore toute la question de l'arrimage entre les différents systèmes de justice. Ça, c'est pas nouveau et c'est documenté depuis longtemps. Oui, du point de vue de chaque système de justice que les jugements semblent tout à fait cohérents, mais pour les victimes, effectivement, ce sont des jugements qui sont contradictoires entre un interdit de contact aux criminels avec faciliter les contacts aux civils. Ça, c'est documenté de façon, ça fait des dizaines d'années qu'on le documente, ça. Alors oui, on met beaucoup le focus sur l'implantation de tribunaux spécialisés aux criminels, et, mais il va falloir qu'il y ait vraiment des voies de passage. Donc, et on le voit dans d'autres modèles où il y a des agents qui font la liaison entre les différents systèmes de justice, mais je pense qu'il va falloir aller au-delà, parce que même au niveau de la législation, il va falloir qu'il y ait une cohérence. Mm-hmm. En ce moment, oui, on est sur le projet de loi 2 et on voit que au niveau de la violence conjugale, la violence familiale, il y a très peu de précision au niveau des articles. Donc, il faut qu'il y ait, si on a un tribunal spécialisé aux criminels, il faut que le civil suive aussi. Là. Il faut qu'il y ait une spécialisation, il faut qu'on tienne vraiment compte. Et en ce moment, bien sûr, là, on va être en commission parlementaire, mais il va falloir qu'il y ait un travail, effectivement, qui soit fait au niveau du civil. Donc, ça aussi, c'est un enjeu majeur. Quand tout va être mis en place, comment les systèmes de justice vont collaborer puis être cohérents? Parce que si on travaille très fort aux criminels, puis il n'y a pas d'impact au niveau du traitement civil, mais on va être encore pris avec plusieurs problèmes qui sont documentés, ne serait-ce que la réponse actuelle qui est très peu efficace à l'effet de tenir compte de la violence conjugale par les tribunaux de la famille. Donc, puis on a produit un rapport de recherche. Il y a eu une recherche qui a été faite avec la Fédération et avec des professeurs en sciences juridiques, où est-ce qu'on a épluché plus de 200 rapports au civil qui démontrent que la prise en compte de la violence conjugale n'est pas à la hauteur, là, n'est pas efficiente et qui, justement, qu'il y a des lacunes. Donc, il va falloir que les différents systèmes de justice se parlent aussi. Puis il y a tout l'aspect aussi au niveau du tribunal de la jeunesse qui est une autre paire de manches. Là. Alors, ça aussi, dans l'avenir, ça va être une préoccupation majeure.
Merci, Manon. Sabrina, puis ensuite, on va passer à notre prochain thème.
Rapidement, je dirais qu'un des défis, ça va, oui, c'est super, violence conjugale et agression sexuelle rassemblées ensemble, mais je pense qu'il va y avoir un problème de volume. Il ne faudrait pas que les agressions sexuelles soient moins... il y a beaucoup moins actuellement de plaintes en agression sexuelle qu'en violence conjugale. À la fois, il faut garder le pont entre les deux parce qu'on peut être victime de violence conjugale et victime d'agression sexuelle. Donc, s'assurer vraiment d'une cohérence dans l'accompagnement quand il y a les deux types d'agressions. Je dirais que je pense qu'aussi dans les défis qui s'annoncent, là, c'est qu'actuellement, le tribunal se travaille en interministériel et puis il y a une table nationale de consultation, puis qui s'est bien écrit, c'est dit dans le titre, de consultation au niveau des partenaires, donc les différents regroupements violence conjugale, nous sommes là. Donc, tu sais, j'ai le goût de dire qu'on a le goût d'être un peu plus que consultés. On veut être des acteurs actifs de la mise en place pour éviter des écueils. Donc, je pense que c'est là que ça va se jouer pour qu'on ait une réponse satisfaisante et puis un tribunal spécialisé qui réponde vraiment aux attentes que nous avons, là, qui sont élevées, mais qui sont légitimes.
Mm-hmm. Fait que j'entends qu'il y a de l'enthousiasme, mais il reste quand même certains défis. Puis il y a aussi quelques inquiétudes, là, avec entre autres ce que plusieurs ont nommé, là, qu'on appelle aussi parfois les trois planètes, là, toute l'arrimage entre le droit de la famille, le droit criminel, chambre de la jeunesse. Il va rester quand même beaucoup, beaucoup de travail à ce niveau-là. Je vois le temps qui file, mais j'aimerais savoir si Alexandra, j'ai comme l'impression que les panélistes ont répondu quand même pas mal aux questions qui avaient été soulevées par rapport aux tribunaux spécialisés. Est-ce qu'il restait, peut-être, on aurait peut-être le temps pour une question rapide ou un commentaire?
Oui, ces questions, commentaires, il y a des personnes qui ont posé la question par rapport au temps, au délai. Un tribunal spécialisé, est-ce que un mécanisme comme ça va pouvoir entendre des personnes qui ont eu déjà des jugements, par exemple, en droit de la famille, qui n'ont pas tenu compte d'accusations envers le conjoint violent et d'où a découlé des décisions relatives à la garde et aux accès. Les personnes se posent la question, est-ce que le tribunal spécialisé pourra entendre des causes qui ont déjà été entendues pour rétablir la confiance?
Peut-être qu'on pourrait lancer la question à Sophie, si ça te tente de répondre.
Effectivement, des décisions en des droits de visite, on peut revenir devant la Cour s'il y a un fait nouveau. Mais c'est clair que, d'où la pertinence de notre recommandation, c'est vraiment, puis ça fait écho à celles qui ont été évoquées aussi, que les tribunaux de droit de la, les juges de droit de la famille soient eux aussi, elles aussi formées pour comprendre ce qu'est la violence conjugale. Puis trop souvent dans nos dossiers, nous, on le constate là, en l'absence de violence physique. Et même parfois, quand il y a de la violence physique, les juges en matière familiale ne considèrent pas que la violence qui est rapportée constitue de la violence conjugale et continuent de faire prévaloir un accès égal aux deux parents, même en présence d'une dynamique de violence. Juridiquement, là, c'est certain que c'est possible de demander de revisiter les questions des droits d'accès, mais le gain de cause n'est pas du tout assuré, malheureusement, mais c'est vraiment là-dessus qu'on travaille.
Merci. Simon?
Oui. Alors, il était question quand même à plusieurs reprises depuis le début de la discussion de la question de l'intégration, de la concertation. Peut-être une des recommandations fortes du rapport, c'était la création d'un secrétariat qui aurait pu coordonner l'ensemble de la mise en application de l'ensemble des recommandations du rapport. On n'a certainement pas l'impression à cette étape-ci qu'il y aura, du moins à court terme, un secrétariat en lien avec la violence, spécifiquement en lien avec la violence conjugale et les agressions sexuelles. Mais de manière peut-être plus générale, qu'est-ce que vous observez ou qu'est-ce que vous entrevoyez en termes de retombées au niveau, disons, de l'intégration des services et de la concertation entre les différents services? Je ne sais pas qui veut se lancer. Sabrina.
C'est sûr qu'à l'Alliance, on a vraiment fait beaucoup de représentations pour aller vers cette nouvelle forme, parce qu'actuellement, la violence conjugale relève de trop de ministères. Et chacun a son petit bout. Entre la justice, santé, services sociaux, secrétariat à la condition féminine. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un ministère responsable de l'ensemble des mesures, je vais parler en violence conjugale, de l'ensemble des mesures pour avoir une cohérence. On le voit là, on en parle depuis tout à l'heure, on a vraiment beaucoup d'enjeux à ramener ensemble et à donner une cohérence, être dans un continuum pour que tout, je dirais, s'ancre. Hein. Et le travail est énorme. En le séparant de cette manière-là, sans chef au féminin d'orchestre, ce que ça donne, c'est que un ministère peut avoir l'impression d'avoir fait super bien son travail, mais ne réalise pas l'impact que ça va avoir sur un autre ministère. Donc, on l'a poussé. Je pense qu'on a eu une fin de non-recevoir. Est-ce qu'il faut arrêter? Non. Puis je suis contente que vous ayez posé cette question-là, parce que c'est sûrement la... Puis ce super secrétariat relèverait directement du Premier ministre. C'est ça qui fait toute la différence, parce que si le Premier, on l'a vu hein, au cours des derniers mois, c'est quand le Premier ministre a pris position que les choses se sont mises à bouger. Donc c'est vraiment d'amener un pouvoir politique très très fort pour des actions rapides, concrètes et cohérentes se mettent en place. Donc c'est sûr que... C'est un manque pour moi, pour l'Alliance, c'est un manque criant là actuellement de ne pas voir le gouvernement retenir cette recommandation.
Merci Sabrina. Louise.
Bien, moi, je pense qu'au-delà de la réalisation de l'ensemble des recommandations, le plus grand défi qu'on a, c'est effectivement la cohérence et l'intégration des différentes mesures. Parce que si on fait des choses pour la police, mais qu'on n'intègre pas avec les services ou avec la justice, ou on va se retrouver avec encore des problèmes. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce qu'on va faire va arriver à faire avancer l'ensemble des actions qui sont nécessaires pour les victimes. Fait que c'est sûr que l'idée du secrétariat était une très belle avenue qu'on aurait espéré voir réalisée. Les choix qui ont été faits à venir jusqu'à maintenant sont pas ceux-là. Il y a une responsabilité qui a été donnée à la vice-première ministre. Il y a du travail en intersectoriel, mais il faut, moi, je pense qu'on a pas seulement une obligation de moyens, mais on a une obligation de résultats. Et il va falloir vraiment suivre les choses pour s'assurer qu'il y a des liens qui se fassent entre les différentes actions et qu'on s'en va tout le monde vers la même place.
Merci, Louise. Sabrina.
En fait, je pense que c'est ça. Ce que je trouve, moi, c'est qu'on a vraiment l'impression que cette responsabilité ou ce poids-là, présentement, il est vraiment redistribué sur les gens du terrain, tous les acteurs. Puis on le sent, la pression que ça repose sur nous de s'assurer qu'on couvre tous les angles morts puis qu'on fasse les liens. Tu sais, c'est comme s'ils comptaient sur nous pour tout le temps pour leur signifier, ah, ben si vous faites ça dans tel ministère, ben ça va avoir telle conséquence dans l'autre ministère. On se heurte souvent à des gens qui sont surpris quand on leur dit, ben là, tu sais, on les sensibilise au fait justement qu'il y a des liens à faire, tout ça. Puis, il y a le politique, puis il y a toute la fonction publique aussi qui ne marche pas toujours ensemble. Donc, je pense effectivement qu'avoir quelqu'un qui peut améliorer la circulation de l'information puis avoir une espèce de vision plus globale, ça pourrait vraiment faciliter les choses puis nous enlever aussi de la pression sur la mise en action, parce que même si on est très mobilisé, qu'on le veut, tout ça, il faut que ça parte de plus haut, je pense.
Merci Sabrina et Manon.
Puis pour ajouter une couche au niveau de l'arrimage de tout ça, il faut se rappeler qu'au Québec, on est pas mal champion en plan d'action et politique. On a des qui parlent toutes et chacune de violences faites aux femmes, violences conjugales, sexuelles et entre les plans d'action en violence conjugale, en agression à caractère sexuel, en violence sexuelle, en itinérance aussi, que ça touche à des impacts au niveau de la violence faite aux femmes, en égalité. Et puis, ce ne sont pas nécessairement des plans d'action qui sont en cohérence les uns avec les autres. Et il y a souvent des incohérences. Alors, ça aussi, il y a tout l'effet de ces différents plans d'action qui atterrissent sur le terrain. Alors, il y a aussi, et ça aussi, je pense que ça milite aussi dans le sens d'avoir un secrétariat qui va arrimer tout, pas seulement au niveau de l'impact, au niveau des changements avec les tribunaux spécialisés et le droit de la famille et la loi de la protection de la jeunesse, mais globalement aussi avec tout, on sait que la violence est transversale, donc ça touche beaucoup de sphères et il y a plusieurs actions effectivement qui sont entreprises, mais y a-t-il une cohésion pour qu'effectivement ce qu'on fait d'un côté va pas être défait ou d'impact sur, de façon globale, sur le reste.
Merci Manon. Alors, on voit qu'il y a un consensus là, qui semble se dessiner à l'effet que il y a certainement un défi qui sera à relever là, au niveau de l'intégration de ces différentes recommandations-là dans les mois et les années à venir. En fait, il nous reste à peu près 8 minutes. Vous êtes 6 panélistes. Alors, j'ai le goût de vous proposer comme dernier tour de table de faire un tour d'écran. Donc, si on calcule maximum 1 minute par réponse. Et en fait, ce qu'on a le goût de vous lancer peut-être comme dernière question de conclusion. Plusieurs d'entre vous ont mentionné dans le tour de table de départ qu'une année, c'est assez court. On vient de faire le constat qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent, mais beaucoup de choses restent à voir. Donc, si vous aviez à identifier un élément qu'il faut surveiller, je sais qu'il y en a plein, mais si vous aviez vraiment un élément que vous avez le goût de nous dire, ça, c'est l'élément à surveiller dans les prochains mois en lien avec les différentes recommandations du rapport, qu'est-ce que ce serait? Alors, je vais vous nommer comme vous apparaissez dans mon écran pour faciliter les choses. Donc, Manon.
Ben, je pense que c'est ce qu'on vient de dire, c'est toute la cohérence, la coordination et puis vraiment d'avoir, on salue la volonté politique d'avoir des changements en profondeur, des changements de culture organisationnelle. On salue, mais il faut se donner les moyens vraiment de monitorer tout ça et d'où l'importance effectivement d'avoir un message clair, de mettre en place un secrétariat ou un comité qui va vraiment veiller à, l'actualisation des mesures, mais l'effet, l'impact de l'actualisation de ces mesures et la coordination. De ces mesures pour pas qu'on ait des effets pervers au niveau du terrain. Là.
Merci Manon. Difficile hein, de juste surveiller une chose. On en a au moins déjà 3 là, qu'on doit surveiller dans les prochains mois. Roxane.
Oui, je soulignerais pour ma part peut-être un élément qui est revenu à travers différentes prises de parole, qui est vraiment la reconnaissance de l'expertise du terrain, l'écoute, de la consultation. Le gouvernement a une belle volonté politique, on la salue, mais pendant les années précédentes, les décennies précédentes, c'est le communautaire, en fait, qui a pallié à tout ce manque-là et qui a développé vraiment des savoirs qu'on ne peut pas négliger dans l'élaboration de solutions à l'heure actuelle. Alors, de la consultation, puis dans la collaboration entre les ressources, il y a urgence en la demeure, mais il ne faut pas non plus foncer aveuglément comme ça a été fait, par exemple, avec l'IVAC, si je peux nommer un exemple.
Merci, Roxane. Louise.
Bien, en fait, je pense que la mise en place des projets pilotes du tribunal spécialisé va être un bon test. Ça nous permettra de voir est-ce que les ressources financières sont au rendez-vous, est-ce qu'on respecte l'expertise, est-ce qu'on donne la formation nécessaire pour que le travail des policiers dès le départ au niveau de la collecte de la preuve permette que ça se passe mieux au niveau du reste du processus judiciaire. Est-ce qu'on va assurer une coordination avec les autres instances judiciaires. Je pense que ça va être un bon test parce qu'il y a beaucoup de choses à faire si on veut que ça atterrisse correctement et que ça rende les promesses qui sont faites.
Merci Louise. Sabrina Nadeau.
Personnellement, j'ai vraiment de la difficulté à pointer quelque chose de vraiment précis. Je pense que tout ce qui a été dit est vraiment serait des objectifs, mais je crois que c'est ça. Il faut continuer surtout à être vigilant. Dans le fond, garder notre vigilance justement sur l'arrimage de tout ça puis de comment on peut participer tout en étant très conscient des ressources qu'on a parce qu'on a tendance souvent, en tout cas de notre côté, à vouloir beaucoup faire de choses, mais on se retrouve toujours avec des ressources quand même limitées puis... Si on s'engage dans quelque chose, bien, il faut s'assurer qu'on est capable de livrer la marchandise. Je le disais un peu pour la ligne 24-7, mais c'est un peu pour tous les projets aussi qu'on veut s'engager à faire. Donc, si le gouvernement nous sollicite, mais il faut qu'on s'assure qu'on a aussi les ressources. Puis c'est pas juste des ressources financières, c'est vraiment beaucoup des ressources humaines, puis valoriser là, le travail. Peut-être, si j'avais une chose à dire, c'est que les gens comprennent que quand tu es un intervenant, ça peut être super enrichissant de travailler en violence conjugale. C'est un métier fabuleux, autant, je pense, que des deux côtés, parce que c'est tellement important. C'est ça.
Merci, merci Sabrina. Le message est envoyé. Sabrina Lemeltier.
Je rejoins Louise. Je pense qu'il faut vraiment regarder la mise en œuvre des projets pilotes, regarder aussi l'implication des organismes spécialisés en violence conjugale, qu'on ne soit pas consulté, mais qu'on fasse partie intégrante de la mise en œuvre, et s'assurer aussi que le tribunal spécialisé vienne avec des services intégrés. Si dès le début, dans la mise en œuvre, on n'a pas des services intégrés, même en phase pilote, je pense que l'évaluation qu'on fera des résultats va pas atteindre les objectifs qu'avait la mise en place du tribunal spécialisé. Pour conclure, moi, je dirais que je suis super enthousiaste. Je pense que c'est majeur ce qu'on a à faire, mais je tiens quand même à souligner. J'aurais pas parié là-dessus au moment où je travaillais sur le comité qui a pondu ce rapport-là. Je croyais pas en ce résultat-là. Donc, c'est possible d'avancer, mais continuons d'avancer, je dirais, de manière cohérente. Et ce qu'a mis en œuvre, ce qu'a mis de l'avant, rebâtir la confiance, c'est que quand on travaille tous ensemble, quelle que soit notre expertise, on arrive à faire quelque chose qui donne du sens. Donc, que le juridique travaille avec le psychosocial, avec les experts en violence conjugale, avec la police. C'est ça qui va faire qu'on va avoir un tribunal spécialisé qui fait du sens pour les victimes.
Merci, Sabrina. Et finalement, Sophie.
Moi, ma préoccupation, mon souhait pour le futur, c'est qu'on parvienne réellement à répondre aux besoins de justice des personnes victimes et des personnes survivantes. Puis je pense que ça passe entre autres par l'administration de la justice, par le système judiciaire, mais ce système-là ne va jamais répondre pleinement aux besoins de justice des personnes victimes et des survivantes. Malgré toutes les promesses qui ont été faites se réalisent, le passage en système de justice ne sera jamais une expérience fondamentalement agréable là, pour une personne victime ou pour une personne survivante. Et pour moi, la solution pour répondre aux besoins de justice, ça va être d'une part d'améliorer le système de justice, mais aussi de penser aux autres formes de justice qui peuvent exister à l'extérieur du système de justice, surtout pour les filles, les femmes qui ne nous ressemblent pas aux panélistes aujourd'hui. Donc, je pense que ça va être le défi là, dans un premier temps, de travailler sur l'administration de la justice, mais aussi nous, les juristes et les partenaires du système de justice, de s'ouvrir un peu les œillères puis de réfléchir aux différentes manières de procurer un sentiment de justice. Je pense que ce sera ça le défi qui nous attend si on veut s'éviter des crises de confiance comme ça ponctuellement à chaque décennie.
Merci beaucoup, Sophie. Alors, c'est ce qui clôt notre discussion, 2 heures très, très, très riches, très intéressantes. Donc, on retient qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place, qui sont dans un processus de mise en place actuellement, mais qui a par ailleurs beaucoup de choses à surveiller dans les prochains mois. Donc, on pourrait même se donner un rendez-vous d'en reparler, de refaire le point dans une année pour voir rebâtir la confiance 2 ans après, où est-ce qu'on en est, et en espérant que ce processus-là fonctionne et amène des résultats intéressants là, pour les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Donc, un gros merci à tous nos panélistes. Merci à toutes les personnes qui ont participé.